Romains chapitre 1, versets 1 à 7. Romains chapitre 1, versets 1 à 7. Au nom de Jésus. De la part de Paul, qui est serviteur de Jésus-Christ et que Dieu a appelé à être apôtre, en le choisissant pour annoncer sa bonne nouvelle, Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps dans les Saintes Écritures par l'intermédiaire de ses prophètes. Elle se rapporte à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'homme, il était descendant du roi David, mais selon l'Esprit Saint, il a été manifesté Fils de Dieu avec puissance quand il a été ressuscité d'entre les morts. Par lui, Dieu m'a accordé la faveur d'être apôtre pour l'honneur du Christ afin d'amener des hommes de toutes les nations à croire en lui et à lui obéir. Vous faites aussi partie de ces hommes, vous que Dieu a appelés pour que vous apparteniez à Jésus-Christ. Je vous écris à vous qui êtes à Rome, vous tous que Dieu aime et qu'il a appelés à vivre pour lui. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donne la grâce et la paix. Amen. Lorsque nous lisons toutes les épîtres de Paul, les entêtes de chaque épître, il commence toujours son épître par cette formulation qui lui est chère à lui. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par appel, par la volonté de Dieu. À chaque fois, c'est un peu sa signature. Et cette formulation choque certaines personnes qui pensent que Paul serait orgueilleux, voulant se mettre en avant, ou du moins, il se comportait en une personne qui essayait de se justifier à chaque fois sur son statut d'apôtre. Il est vrai qu'il y avait pas mal de réticences vis-à-vis de Paul, venant de la part de ses propres frères et sœurs en Christ même, dans la communauté chrétienne, vu son passé très lourd. C'est un tueur de chrétiens. De ce fait, la lettre de Paul aux Romains, ici, a une toute autre sonorité, parce que la formulation d'introduction est différente de ce qu'on connaissait habituellement de Paul. Voici ce qu'il est dit au premier verset. Paul, et je prends la version de la Nouvelle Bible Seconde, NBS, Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre par appel, mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu. Paul, esclave de Jésus-Christ. J'ai fait exprès de prendre cette version-là pour bien mettre en avant, en exergue, ce mot « esclave ». Et donc, Paul ne se met pas à l'avant. Au contraire, il se rabaisse. Il se met au plus bas. Je suis qu'un serviteur, pour ne pas dire je suis l'esclave de Jésus-Christ. Et donc là, Paul se considère comme étant appelé apôtre par Dieu lui-même en personne, afin d'être esclave de Jésus-Christ. Voilà le but de son appel. Dieu m'a appelé, certes. Dieu m'a choisi apôtre, oui, mais il m'a appelé pour être esclave de Jésus-Christ. En d'autres termes, Paul prend au sérieux cette faveur que Dieu lui a accordée, une faveur qui est liée à la servitude, et non une faveur pour accaparer les honneurs. Ce n'est pas son but, ce n'est pas d'avoir la reconnaissance des gens. Non, c'est de dire que j'ai eu une grâce. C'est vrai, vous avez raison de me détester, parce que vous savez bien mon passé. Vous connaissez bien ce que j'ai fait, mais il m'a appelé. Voilà la bonne nouvelle. Il est vraiment conscient qu'il ne devait pas faire partie des apôtres. Parce que même lui, il se considérait dans son épître comme un avortant par rapport aux autres apôtres, puisque Jésus s'est apparu à lui aussi plus tard, sur le chemin de Damas. Donc si je reformule cette phrase de Paul, pour lui, être esclave de Jésus, c'est un grand honneur. Parce qu'il a été mis à part pour pouvoir participer à l'annonce de la bonne nouvelle. Et si Paul ose dire que c'est le Père qui l'a appelé pour ce ministère, c'est parce qu'il l'a entendu de sa propre oreille, de la bouche d'Anania, lors du premier jour de sa conversion. Voici ce que Jésus avait dit à Anania: « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois, comme devant les Israélites. » Paul ne se vante pas de son titre d'apôtre, pas comme certaines personnes aujourd'hui qui me font peur, qui usurpent ce titre d'apôtre. Je vois sur Internet « titre vénérable, apôtre vénérable ». Des prédicateurs ambulants par-ci par-là, ils utilisent ce mot avec des accoutrements exagérés pour attirer l'attention des gens sur la personne. Je voyais quelques pasteurs ici et là, on leur ouvre les portes comme s'ils étaient des ministres. Ils roulent en limousine, en voiture de luxe. Ils ont même des gardes du corps, certains pasteurs. Des serviteurs qui portent leur Bible, peut-être ça pèse trop lourd. Avant de prêcher, il y a un qui apporte sa Bible devant tout le monde. Est-ce ça, serviteur de Dieu? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur Internet. Je me suis amusé une fois à voir la liste des évangélistes les plus riches dans le monde. Ils sont comme les stars de foot, comme les acteurs de cinéma. Ils ont des villas par-ci, par-là. Et pour faire leur campagne d'évangélisation, ils se déplacent en jet privé. Je ne vois même pas une petite lueur d'humilité dans tout cela. Sont-ils vraiment serviteurs de Jésus-Christ? Ou est-ce l'inverse? Ou est-ce que c'est le Christ qui devient leur serviteur? C'est ça qui fait peur. Est-ce qu'ils utilisent le nom de Jésus pour se mettre en valeur? En lisant ces lignes, on pourrait se poser des questions dans notre tête. Mais est-ce que cela ne semble pas être en contradiction avec la parole de Jésus dans l'évangile de Jean qui dit « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Pourtant, on dit « On est des esclaves. » Or, Jésus dit ici « Vous serez libre. » Alors, pourquoi Paul utilise ce terme de « esclave », de « doulos » Alors, pour comprendre ce paradoxe, je vous invite à lire un texte dans Romains chapitre 6, versets 17 et 18. Romains chapitre 6, versets 17 et 18. Mais Dieu soit loué, vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle contenu dans l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché et vous êtes devenus, écoutez bien, vous êtes devenus esclaves de la justice. Nous sommes libérés du péché pour être esclaves de la justice. Comment traduire concrètement ces charabias de Paul dans le langage des mortels aujourd'hui? Paul, lorsqu'il était encore dans la dynamique de persécution du Christ, il s'est voué corps et âme pour détruire le christianisme. Car pour lui, le christianisme était un danger quand il était encore sous la tutelle du grand rabbin Gamaliel. Il avait pour maître Gamaliel, et on peut dire qu'il a donné toute son énergie pour éradiquer cette foi chrétienne. Mais une fois qu'il a eu cette belle rencontre sur le chemin de Damas, il se considère comme quelqu'un qui a changé de maître. Donc, il a juste changé de maître. Et là, nous pouvons tous constater que parmi tous les disciples, si vous regardez de façon objective, parmi tous les disciples de Jésus-Christ, c'est Paul qui était le plus fervent. Il a sillonné toute l'Asie mineure. Donc, comme s'il a fait un acte de pénitence. J'ai fait plusieurs kilomètres pour chasser les chrétiens, alors je vais faire le tour du monde pour annoncer que le Christ est Seigneur. Pour se mettre au service de l'Évangile, il s'est donné à fond. Et savez-vous que Paul, il avait une maladie incurable. En faisant tout cela, il n'était pas dans sa forme. Il n'attendait pas, Seigneur, guéris-moi, comme ça je vais faire ta mission. C'est souvent la prière qu'on fait, si tu me guéris, je vais te servir. Non, il était en pleine maladie. Mais il a fait plus que les autres qui étaient en bonne santé, parce qu'il se considérait comme doulos, serviteur de l'Évangile. Chers amis, quand nous disons que nous servons Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu le sers à 100%, soit pas du tout. Pas juste une partie. Tu ne vas pas dire, mais ça c'est ma partie à moi, Seigneur, tu ne vas pas entrer dedans ça. Non, soit tu le donnes à 100%, soit rien. Il ne faut pas confondre le statut d'esclave ici, l'esclave sous le joug de la servitude, comme en Égypte par exemple, puisque le peuple était opprimé, mais être serviteur ou esclave au temps de Jésus était totalement différent sur le plan économique et social. Je parle ici de contexte historique. Rappelez-vous la parabole que Jésus avait faite sur le maître de maison qui sortit de son domaine pour aller embaucher des ouvriers pour sa vigne. Le système patronal à l'époque de Jésus est un système patriarcal, c'est-à-dire que le maître ne se comportait pas comme les riches propriétaires d'esclaves au temps de l'esclavage, mais en chef de famille ou en patriarche pour prendre en charge sous sa protection toute une famille. Voilà le système à l'époque. Et alors ce serviteur qu'il a pris lui doit loyauté et fidélité, non pas par contrainte, mais pour un souci de rendement mutuel. Si tu bosses bien, tout le monde mange. C'était ça le système au temps de Jésus. Alors c'est ce mot-là qui a été utilisé ici, le doulos. Ce n'est pas un esclave dans le sens celui qui est réduit comme une marchandise, mais quelqu'un qui participe activement au rendement du maître et pour lui en même temps. Il y a un lien étroit entre le titre de maître et le titre de père protecteur. Donc l'Éternel a repris ce terme, il a utilisé cette double notion pour faire comprendre à Israël le type de rapport qu'il attendait de son peuple. Et voilà ce que Dieu avait dit dans Malachi chapitre 1 verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Alors si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit le Christ. Alors nous qui suivons le Christ, nous qui prononçons comme serviteurs du Christ, nous ne faisons que continuer ce que le Christ lui-même a vécu. Il est dit dans notre texte, il a été institué fils du Dieu avec puissance, c'est-à-dire il est Seigneur. Mais en même temps, il est descendant de David selon la chair. D'où rappelez-vous l'appellation de l'aveugle de Jéricho, fils de David, aie compassion de moi. En d'autres termes, il est vraiment Seigneur et Maître, mais il s'est volontairement abaissé comme étant fils de David afin de sauver les pécheurs. Oui, le Christ s'est humilié à un point qu'on ne peut pas l'imaginer. Nous allons fêter Noël d'ici quelques jours. Le Christ s'est humilié jusqu'à un point qu'on ne peut pas l'imaginer en prenant sur lui le titre de serviteur. C'est un blasphème de dire que Dieu est un serviteur. Mais il l'a pris, ce titre. Comme il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et c'est là que se trompent la plupart des autres religions qui prennent comme argument que Jésus n'a pas les mêmes gloires et honneurs que le Père, puisque il s'est rabaissé, il est inférieur au Père. Non, il s'est abaissé volontairement. Tel est le secret de l'élévation du Fils de Dieu. Et c'est toujours Paul qui le dit très bien dans son épître aux Philippiens. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ, lui qui était vraiment divin. Il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Voilà la vie de Jésus. Alors, chers frères et sœurs en Christ, veux-tu faire partie des grands hommes et des grandes dames de Dieu? Ce n'est pas en cherchant à se faire remarquer dans les hautes sphères de la société que tu l'auras, ce titre. La grandeur de Dieu se manifeste dans sa capacité de s'abaisser au plus bas. C'est ça la gloire de Dieu. À notre niveau. Alors je vous pose la question, quel Dieu peut faire ça, à part le nôtre? Jamais un Dieu accepterait de s'abaisser au même niveau que sa création. Mais le nôtre, il l'a fait. Il s'appelle Jésus. Et c'est ce qui fait chanter les anges du ciel. Lorsque le Fils de Dieu arrivera sur terre, la louange des anges se porte sur le fait que le Fils unique du Très-Haut se trouve emmailloté et couché vulnérable dans la mangeoire. Or, il a toute cette multitude d'anges à son service qui vient du ciel. Il a accepté d'être un tout petit bébé. Vous voyez l'image? Tous les anges à son service et il est là vulnérable entre les mains d'une femme.